Vega.
Donc, je vais vous parler donc des résultats d'une étude qualitative collective. Je vous ai mis plein d'informations à ce sujet, notamment tous les membres qui ont participé, le colloque qu'on a organisé et les publications aussi à venir, parce que ça va me permettre moi de rentrer plus vite dans le vif du sujet, à savoir ce qui nous a conduit à faire cette étude. Les principaux résultats, malgré tout, je vais quand même un peu me cantonner au mien vu le temps qui m'est imparti, en sachant que moi, donc, je suis anthropologue à la base et que je me suis un peu spécialisée sur les relations soignants-soignés. Vous devez savoir aussi qu'on va en fait remettre le rapport d'ici peu et qu'on est aussi en attente de financement pour prolonger cette étude. Alors, sur nos motivations déjà, on a d'emblée choisi de travailler sur la coordination des soins parce qu'en fait on a trouvé assez peu de publications en sciences sociales sur cette notion et particulièrement dans le cancer, en matière de prise en charge, il est de plus en plus question justement de privilégier une approche multidisciplinaire, multisecteur, donc une coordination entre les différents acteurs de santé, également entre le secteur médico-social, en prenant théoriquement davantage en compte la voix des acteurs de soins, à savoir les patients, leurs proches et leurs représentants. Et ça, c'est lié en fait à un contexte particulier. On est dans une situation épidémiologique assez inédite de prolongation de la vie, enfin du moins pour les catégories les plus aisées, et de multiplication des maladies dites chroniques, donc, c'est-à-dire face auxquelles finalement la médecine n'a peu de réponses. Hein, ce sont des affections persistantes dans la longue durée. Vous avez une liste très longue, je ne vais pas tous les citer. Il y a le cancer, il y a le diabète, il y a l'obésité que d'aucuns qualifient d'épidémie. Hein, et ces maladies vont avec des savoirs, des profanes, mais aussi avec des difficultés de vie qui sont relativement bien étudiées en termes de retour à l'emploi, difficultés financières. Et par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait encore peu de travaux sur vraiment une autre conséquence de cette situation, à savoir une diminution constante du temps passé à l'hôpital de toutes les personnes qui sont concernées, à la fois donc pour des raisons de progrès médical, mais aussi pour des gestions de coûts de la santé. Hein. Et ça, ça se voit particulièrement dans le cancer, où vous avez un auteur comme Philippe Bataille qui a parlé de déshospitalisation des soins dès les années 80. Alors je vous l'ai mis en référence. Donc c'est pour ça que nous, on s'est intéressé spécifiquement au secteur dit ambulatoire, donc sans hospitalisation. Car vous avez de plus en plus de personnes donc, qui doivent vivre leur maladie à leur domicile et qui font, c'est ça qui nous a intéressé, la navette entre leur domicile et les hôpitaux dits de jour, hein, pour des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. C'est là, nous, où on a recruté les enquêtés et où on a fait également des observations et aussi des entretiens informels avec les soignants au sens large qui travaillent dans ces hôpitaux de jour. Il faut savoir aussi que, outre les opérations chirurgicales, quand c'est possible, le traitement de référence en France, c'est les cures de chimiothérapie. Donc du coup, on s'est intéressé aussi particulièrement à ces traitements. Donc c'est des médicaments anticancéreux qui sont reçus par transfusion intraveineuse. C'est des traitements qui restent entre parenthèses très coûteux. Et en France, il y a encore assez peu de développement de ces chimiothérapies à domicile. Et donc notre objectif, c'était de recueillir en fait le point de vue des soignés atteints de cancer sur leur prise en charge, hein, particulièrement à l'hôpital de jour, mais de façon aussi générale, aussi suite aux nouvelles reconfigurations entre médecine et société, incluant toute la diffusion des informations par le canal d'Internet, en suivant une des pistes qui a été élaborée par Sylvie Faisan, je vous ai mis pareil les références dans le petit papier qu'on vous a donné, qui est une autre auteure de référence sur le cancer. Et le tout, on a choisi de faire ça dans les centres de lutte contre le cancer, que j'appellerais centres, hein, malgré le fait qu'finalement, ils prennent en charge qu'une minorité de patients hein, atteints de cancer, qui sont essentiellement pris en charge plutôt dans les hôpitaux publics et privés. Alors, pourquoi on s'intéressait quand même aux centres? Ben, ils ont été créés en 45 et depuis lors, particulièrement depuis plusieurs années, ils font vraiment figure de précurseurs et de modèles pour tout ce qui est dépistage, diagnostic, chirurgie, chimiothérapie. Et ça va avec tout un mouvement à peu près depuis les années 2000. Vous avez la lutte contre le cancer qui est redevenue vraiment une priorité nationale, des priorités gouvernementales, avec également les lancements des premiers plans cancer, avec la création de l'INCa, l'Institut National du Cancer, qui nous a financé et qui finance de nombreuses études sur le cancer, dont eux, ils sont assez proches. Hein. En sachant que ces centres ont un statut bien particulier puisqu'ils sont privés à but non lucratif, mais en tout cas nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'ils se revendiquent être à l'origine de nombreuses innovations, dont le fait, alors là je cite leur charte commune, hein, d'être porteurs d'un modèle de prise en charge globale et multidisciplinaire. Hein. Ils affirment aussi être les pionniers dans l'accompagnement complet et personnalisé du patient, travailler pour et avec ce dernier, érigé comme partenaire de recherche, voire même comme expert dans certains centres, hein. D'où l'intérêt pour nous d'avoir le point de vue là des personnes qui étaient traitées dans ces centres. Voilà, alors je sais pas si dans le papier que je vous avais passé, au niveau des critères d'inclusion, on a choisi les 4 principaux cancers et au début, on voulait initialement avoir des personnes en situation de passage en soins palliatifs et également des personnes aux caractéristiques sociales variées. Et ça n'a pas pu se faire, je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'objectif, c'était simplement parce que non seulement le nombre de malades recensés augmente partout, hein, mais le cancer, ça reste une cause très importante de mortalité, voire la première cause de mortalité dans le monde. Simplement, dans les sociétés bien pourvues médicalement, le cancer va désormais, alors je mets des guillemets, hein, avec des chances de survie qui sont en fait très variables selon les types de cancers, le stade de la maladie, les résistances individuelles, mais aussi tout ce qui est environnement social de façon très large. Il y a des grandes variations en termes d'accès aux soins et de conditions d'existence qui jouent énormément aussi. En sachant qu'en France, on est aussi très en retard pour tout ce qui est reconnaissance justement des étiologies, des causes externes, environnementales, dont tout ce qui est reconnaissance des pathologies professionnelles. Hein. Bon, j'en viens au résultat. Donc, au regard de cette recherche, c'était le titre, hein, est-ce qu'il y a tant de mutations, d'innovation que ça, ou plutôt également des permanences en matière de prise en charge. L'idée que c'est que ce soit dans ces centres, que ça soit interrogé, mais au-delà. Hein. Alors finalement, pour le plan, j'ai un peu interverti par rapport à ce que je voulais faire initialement. Moi, je vais déjà vous parler des hiérarchisations qu'on a trouvées entre les divers intervenants, en m'appuyant plutôt sur les témoignages qu'on a recueillis et des études qui sont faites sur les soignants au sens large du terme, pour aborder d'emblée la question de la coordination. Dans un deuxième temps, je vais plus me baser sur donc, les résultats des entretiens avec les soignés et les observations en hôpital de jour pour vous montrer les séries de contraintes auxquelles finalement sont confrontées, sont exposées les personnes avant de recevoir leur traitement. Puis à la fin, ça dépendra du temps qui me reste, je reviendrai sur des processus plus généraux, plus ouverts, plutôt sur tout ce qui est rapport aux émotions, à la médecine et sur les stratégies. Pareil pour des histoires de temps, je vais être obligée de mettre de côté, de faire des impasses sur le rôle essentiel des bénévoles, des aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Je parlerai peu des médecins généralistes, du rôle des médecins traitants dans la boucle. Ça, c'est plutôt ce qui a été développé par Guillaume Coindard, donc, qui est le promoteur de cette étude. Et parce que moi, en fait, je vais vraiment la baser uniquement sur les hôpitaux de jour. Alors, je passe tout de suite à la première partie. En préambule, il faut dire que tout ce qui est prise en charge paramédicale, qualité des traitements et même information sur l'effet secondaire, ça n'a pas du tout été un point critiqué et même ça a été un point positif du point de vue des patients. Par contre, quand on croise les témoignages des professionnels avec ceux des soignés, d'emblée, on perçoit un certain nombre de permanences dans les prises en charge. Moi, j'en ai noté 3. Premièrement, donc, dans les prises en charge, on est bien dans l'ambulatoire. Hein. Vous avez 2 types d'acteurs qui sont plébiscités par les soignés. Les secrétaires administratives et les infirmières, que ce soit en hôpital de jour ou en ville, hein, et au-delà des centres. Hein. Quand on interroge les infirmières, elles disent elles-mêmes travailler en hôpital de jour car les rapports entre professionnels sont plus égalitaires que dans les services d'hospitalisation classiques qui sont organisés quand même de façon assez hiérarchique. Du moins, là, dans ces centres, elles travaillent beaucoup plus avec de jeunes internes et surtout, il n'y a pas de chefs de service qui sont présents continuellement. Bref, on peut dire que le rôle, entre guillemets, relationnel des soignantes est plus développé, d'autant plus que dans certains centres, vous avez maintenant des infirmières d'annonce ou justement coordinatrices qui se développe. Autre motif de satisfaction du travail, elles disent les patients repartent chez eux après les traitements. Cependant, on s'aperçoit aussi qu'elles sont amenées à suivre les patients dans la longue durée, alors j'en cite une, hein, tout au long de leur maladie, et ça nous expose à des retours aggravés en fait, de personnes non guéries, et ça joue sur le moral de tout le monde, patients, accompagnants et soignants. Autre chose qui peut être difficile, c'est finalement les infirmières, les secrétaires, les seules équipes qui sont permanentes, qui assurent finalement la continuité des soins. Et en fait, elles se retrouvent un peu comme dans les situations de service classique, en position d'intermédiaire et d'airbag. Elles sont chargées en fait officieusement de pallier l'ensemble des dysfonctionnements. Donc en termes d'organisation, je vais y revenir. Mais aussi, elles sont là un peu pour gérer, c'est pas un beau mot, mais tout ce qui est non-dit médicaux en termes de mauvaises nouvelles. Et ça, c'est la première permanence qu'on a retrouvée dans cette étude et qui a fait l'objet de nombreuses études. En ville comme en milieu hospitalier, vous avez un certain nombre de médecins qui évitent encore de prononcer des termes trop parlants comme cancer, métastase. Donc ça rejoint plein d'études. Et il y a peu de temps, il y avait un colloque encore des jeunes chercheurs, Sandrine Bretonnière fait les mêmes constats. Elle s'est intéressée, elle, plus au passage palliatif, curatif, palliatif. Mais je ferme la parenthèse parce qu'en fait, les patients sont assez conscients de ces difficultés-là. Et ces professionnels sont jugés très professionnels. Les patients parlent de prise en charge de qualité, d'efficacité de patients. Reste que c'est le rôle de conseil, finalement, des infirmières, y compris en secteur libéral, qui est le plus apprécié par les patients. Parce qu'elles donnent des petits trucs contre les effets secondaires, en matière de nourriture, de soins du corps. Et elles le font de façon spontanée, ça on l'a vu aussi à l'observation. Et donc dans ce sens, vous avez des enquêtés, des soignés, qui soulignent l'importance dans leur parcours de soins de d'autres acteurs qui sont finalement sous-estimés et dans la communication institutionnelle et par les médecins. Les kinésithérapeutes, je pourrais y revenir, les pharmaciens, des personnels de laboratoire et d'examen de ville, sans oublier finalement d'autres acteurs médicaux, les transporteurs, les conducteurs de taxi, les coiffeuses pour les femmes, j'y reviendrai, et ou tous les représentants des médecines dites complémentaires. Donc tous ces professionnels sont jugés globalement par les patients réconfortants, disponibles, ils les accompagnent, et par opposition, je caricature un peu les résultats, mais c'est mon second point, les prises en charge médicales resteraient beaucoup plus limitées. Je cite une personne, les médecins ne vous parlent pas de tout ce qui existe, ils vous parlent du protocole et c'est tout. Il y aurait donc une focalisation encore sur le traitement vraiment curatif du cancer. Et en plus, particulièrement en hôpitaux de jour, les enquêtées, donc, elles ont affaire régulièrement à des interlocuteurs changeants, ce qui est de nouveau assez peu favorable finalement au suivi personnalisé, puisqu'il s'agit avant tout de jeunes médecins, des internes, de passage, et un certain nombre en plus sont d'origine étrangère, ce qui a, du point de vue des patients, aggravé des difficultés de compréhension. Ça a pu aussi être perçu comme peu rassurant la jeunesse de ces médecins pour des patients âgés. D'autant que les internes se révèlent plus ou moins compétents pour répondre aux questions souvent centrales du point de vue des enquêtés ou de façon stéréotypée par rapport à tout ce qui est gestion des effets secondaires. Avec des leitmotifs, c'est normal, c'est comme ça, c'est la chimio. Alors pareil, cette banalisation, voire cette minorisation des effets secondaires, on la retrouve aussi dans plein d'autres études, dont celle en cours de Robel Amselem, même sur les nouvelles thérapies ciblées. Alors cette problématique-là, ce décalage, on s'en a aperçu très très vite, dès les premiers entretiens, parce que vraiment pour le patient, la chimiothérapie, ça marque vraiment l'entrée dans la maladie. Et je vais y revenir parce que le décalage majeur qu'on a perçu, c'est que les enquêtées, finalement, elles aspirent, alors je dis elles parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes finalement atteintes de cancer du sein, plus à être suivies par celui ou celle qui les a effectivement traitées. En l'occurrence, là, c'est l'oncologue, le cancérologue détenteur d'informations sur leur cas. Et en plus, les enquêtées aussi ont tendance à chercher à regrouper leurs examens, leurs consultations et leurs demandes dans les centres, à la fois pour être rassuré pour certains ou simplement pour diminuer justement tous les déplacements entre médecine de ville et hospitalière. Autrement dit, comme dans les autres études conduites en ville, vous avez des personnes qui aspirent à pouvoir se reposer sur plutôt un seul interlocuteur central, plutôt sachant, si possible disponible et joignable, plutôt que d'avoir affaire à une succession de professionnels, a fortiori quand ils doivent pallier justement des difficultés de coordination entre ces derniers. Et c'est l'étude a souligné à nouveau des difficultés en effet de coordination entre médecins des centres, entre intervenants des centres et hors les murs. Donc on serait quand même toujours sur un problème récurrent d'intervenants qui ne sont pas toujours coordonnés, surtout qu'il y a un autre problème de fond, parce que ces aspirations, en fait, elles sont en décalage aussi avec des logiques médicales, du moins, alors que l'hôpital de jour, c'est vraiment un lieu de passage important pour les enquêtés, le travail médical y est jugé tout sauf stratégique selon les médecins qu'on a rencontrés. Il est en tout cas synonyme de prise en charge protocolisée, c'est hyper cadré, c'est hyper normé, auprès de patients de passage. Autrement dit, il est souvent assimilé à un travail de routine par opposition finalement aux compétences qui sont développées dans les services d'hospitalisation, au moins en termes de prise de décision, de diagnostic et par rapport au traitement. En hôpital de jour, les internes disent beaucoup être dans l'exécution. Enfin, concernant le patient, les oncologues comme les futurs oncologues restent pour la plupart persuadés que la meilleure prise en charge, ça va de pair avec une série de recours spécialisés et vous allez voir avant tout médicaux, j'en cite un. Nous c'est la chimio, on répond à des demandes de patients mais ensuite on envoie le patient voir le cardiologue, l'oncopsychologue, le truc, le machin. Et le médecin traitant n'est pas toujours dans la boucle. Là, je vous ai mis en référence le travail de DEA, justement, de Guillaume Coindard, sur lequel on s'est appuyé aussi. Mais pour finir, vous avez d'autres acteurs qui ne sont pas non plus mis dans la boucle, ce qui atteste d'une dernière tendance médicale. En fait, une partie des enquêtés nous ont parlé aussi du manque d'ouverture d'un certain nombre de médecins aux médecines dites complémentaires, qui sont pourtant promues dans les centres en général. Et pourtant, c'est un recours majeur, on le sait, dans le cancer. Je vous ai mis aussi en biblio, mais vous avez aussi le travail d'Anne-Cécile Bégaud. Et en l'occurrence, ici, c'est très clair, les personnes qui ont recours aux médecines dites complémentaires, c'est surtout vraiment un complément pour pallier, pour mieux gérer les effets secondaires des traitements. Mais donc, ça renvoie aussi au fait que les autres façons de soigner, ça continue à poser un certain nombre de problèmes en France, ça s'oppose à certaines traditions, par exemple canadiennes, allemandes ou belges, ou même en cancérologie, vous n'avez pas du tout ces choses-là. Alors, bref, du coup, là où je veux en venir, c'est que pour toutes ces raisons, c'est encore et toujours plutôt les patients et leurs proches qui font le travail de coordination. C'est pareil, ça rejoint plein d'études en cours ou déjà réalisées. C'est quasiment, là où c'est intéressant, c'est que c'est quasiment intériorisé par les patients eux-mêmes. Ça fait partie d'un travail qu'ils ne critiquent pas, ce travail, ils le font de façon assez spontanée. Et même si il y a un dernier point sur lequel je veux venir, leur témoignage atteste finalement de prise en charge très contrastée selon les médecins. Vous avez des oncologues qui ont été jugés peu rassurants, car dans la distance, alors les termes qui viennent c'est fermé, sec, froid, stressant, voire même brutaux et grand mandarin dans un des centres étudiés. Donc là, vous avez des personnes qui se sont vues même assigner un spécialiste, je cite, qui les a pétrifiés et qui ont eu tendance à ajourner les questions à leur égard de peur de leur déplaire ou simplement parce que ces professionnels avaient leur vie entre leurs mains. Bon, ça, c'est des processus qu'on retrouve aussi au niveau de certains chirurgiens qui ont été étudiés hors des centres. Et inversement, on a eu aussi des patients qui ont témoigné de relations très dynamiques fondées sur l'écoute attentive, l'accompagnement conciliant et ou l'utilisation de la plaisanterie. Et ça a été extrêmement motivant pour venir dans les centres, même chez les personnes qui habitaient très loin, qui étaient dans des situations de cancer métastasé, etc. Je développe pas plus sur cette importance des relations soignées pour passer aux doléances. Donc là, justement, plutôt ce qui a été critiqué. Parce que finalement, c'est surtout le passage en hôpital de jour qui a cristallisé les critiques de la plupart des patients enquêtés. Je vous en parle parce qu'en fait, là, c'est vraiment une question d'organisation des soins qui a posé problème et qui renforce finalement plusieurs difficultés qui sont déjà centrales dans le cancer, dans le vécu, à savoir l'absence de maîtrise de son temps, l'incertitude, la fatigue et les sentiments de démoralisation. Je vous ai mis Régnier, Rossmann, mais ça rejoint aussi des études médicales. Et là, je vais pointer aussi des problèmes d'inégalité sociale. Alors, premièrement, on a des constats d'attentes imprévisibles, souvent longues, qui sont récurrents dans les témoignages, avec des cas vécus ou rapportés de patients qui sont convoqués à 8h du matin et qui sont libérés, c'est le terme des personnes, à 17h. 8h, 17h. Donc ça fait quand même long, même si dans les hôpitaux en général, Dixit, on attend. Hein. Bon, parce que des personnes ne sont pas forcément bien installées dans deux centres étudiés, mais surtout parce que les patients attendent aux côtés d'autres patients, dont certains sont dans des états de santé très très dégradés. Et cette cohabitation explique des désarrois particulièrement prononcés chez les nouveaux venus, ceux qui ont un cancer pour la première fois. Et donc, ce qui est assez récurrent, je les cite, on ne sait pas comment ça se passe, pourquoi ils nous convoquent tous à la même heure, et on ne sait jamais quand on va être appelé par le médecin, en fonction de quoi les médecins nous prennent. Bon, j'insiste pas plus là-dessus, hein, mais parce que c'est aussi un constat assez récurrent dans les études, le manque d'informations sur l'organisation et le parcours de soins en France. Ça a des conséquences qu'on a observées, hein, c'est que vous avez des personnes qui du coup n'osent plus bouger leur siège dans les salles d'attente de peur de perdre leur tour. Hein. Ça explique aussi pourquoi dans les salles d'attente des hôpitaux de jour, on voit vraiment à l'observation de l'inquiétude sur les visages, beaucoup plus que dans d'autres salles d'attente. Mais vu la longueur des attentes, vous avez aussi des personnes qui finissent par craquer, entre guillemets, qui partent résignées dans le hall, qui sortent vraiment de la salle d'attente. En tout cas, à l'observation, quand on appelle les personnes, il y a plein de personnes qui sont pas là, qui sont absentes. Bref, le premier résultat, c'est que en fait, les patients sont soumis à une épreuve de patience, hein, c'est la définition du patient, hein, indépendamment finalement du degré de gravité de leur cancer, mais aussi de leur âge, du temps qu'ils ont passé aussi à venir dans les centres, on va le voir tout de suite. Donc là, on aurait moins un accompagnement personnalisé du patient qu'une sorte d'uniformisation de la prise en charge, en tout cas de l'accueil, en lien avec une organisation de type bureaucratique dont témoignent les enquêtés. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir été oublié, on se dit qu'on est des numéros, un matricule, des robots, etc. Plus précisément, les patients sont toujours pensés comme disponibles. Aussi, un certain nombre d'entre eux qui travaillent encore doivent s'organiser à l'avance pour bloquer par exemple des demi-journées ou pour éviter des réunions. Le problème étant aussi que les dates de soins sont souvent imposées, en tout cas sont données pareil au fur et à mesure des traitements et souvent sans consultation. Hein. Et entre parenthèses, ça a été aussi un souci pour nous, pour organiser les rendez-vous, les gens n'avaient pas forcément encore leur planning. Alors, ces histoires d'absence de maîtrise de son temps, d'opacité des organisations, on les a retrouvées ensuite avec toujours l'effet majeur qu'est la fatigue. C'est mon deuxième point parce qu'en fait, c'est assez compliqué l'organisation parce que après l'entrevue médicale, rien n'est encore joué pour le patient. Alors, je les cite, hein, il faut encore attendre qu'il commande le produit et ensuite, la pharmacie suit ou pas. Autrement dit, pour citer une patiente là qui faisait de l'humour, c'est comme dans un restaurant, on ne sait pas ce qui se passe à la cuisine. Et quand on interroge les infirmières qui se chargent notamment d'installer les personnes en salle de chimiothérapie, elles-mêmes n'ont pas forcément d'explications très claires. Donc vous avez aussi des mécanismes d'opacité interne qui sont bien connus dans les hôpitaux, notamment par rapport à ces services de pharmacie, mais aussi par rapport à d'autres. Hein. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il commence à y avoir... On commence à mettre en place d'autres organisations. Alors ça se passe plutôt au sein d'hôpitaux privés et à but lucratif pour le coup et public pour permettre justement d'éviter ces triples, voire doubles ou quadruples attentes hein, qui sont donc fatigantes. Là, une patiente à partir de 3, 4, 6 heures, c'est trop pour les chimios, même pour des retraités. Parce qu'en fait, la chimio, elle peut être en elle-même difficile à vivre. Alors, je ne vais pas rentrer dans la liste des effets secondaires. Hein. Elle est longue. Vous avez des fois des processus de dépersonnalisation. Hein, les gens qui disent « je ne me reconnais pas, je ne suis plus moi ». En tout cas, vous avez des chimiothérapies qui peuvent entraîner de réels handicaps à domicile, hein, donc des incapacités à marcher. Il y en a même qui ont témoigné d'incapacité à faire quoi que ce soit, même à lire, à penser, des problèmes de troubles de mémoire. Ça explique d'ailleurs des fois une première stratégie patient, hein, d'écrire des journaux intimes. Mais je ferme la parenthèse parce qu'en fait, il y a des différences très importantes dans les ressentis. Mais malgré tout, on a quand même pu montrer que, au moins dans le cancer du sein, de retour à domicile, vous avez, quels que soient les centres, au-delà des centres, des ressentis qui sont assez similaires et qui rendent donc cette étape-là particulièrement difficile. C'est des états fluctuants, alors, des hauts et des bas, démoralisation, stress, qui ont tendance d'ailleurs à être souvent médiqués par des psychotropes. Parce que, en fait, depuis le diagnostic, je ne reviens pas au départ, hein, mais le temps se précipite de façon plus ou moins violente. Pour un certain nombre de patients, la mort est envisagée, voire apprivoisée. Donc là, vous avez plein de stratégies d'anticipation, d'organisation de vie. Et l'avenir, comme le présent, sont à repenser, à réorganiser. Et du coup, ça entraîne tout un travail, hein, et des fatigues. Et c'est là où je voulais en venir. Il y a une autre stratégie qui est encore plus développée. Donc, c'est essayer de se faire aider à domicile et faire des siestes. Et c'est là que c'est ce point-là que je voulais souligner, c'est qu'on s'est aperçu que venir passer ces chimiothérapies dans les centres, je cite encore une personne, c'est encore plus fatigant qu'une journée de travail. Là, c'est une patiente métastasée qui a repris son travail et qui vient une fois par semaine en hôpital de jour. Et ça, c'est des choses dont témoignent aussi des accompagnements en bonne santé. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le regroupement des rendez-vous, pour la plupart, donc plutôt tôt en matinée, ben, ça pose problème aux personnes qui habitent loin, c'est-à-dire finalement à une majorité de patients des centres, parce que c'est une des caractéristiques de ces centres spécialisés, c'est de recruter des personnes qui viennent de parfois très très loin, hein, même d'Italie, de La Réunion, pour un centre étudié. D'ailleurs, quand on arrive, il y a une multitude d'hôtels à proximité. Autrement dit, vous avez des patients qui sont souvent fatigués avant même d'arriver dans les centres, qui sont loin de couvrir l'ensemble du territoire. En outre, pour un certain nombre de centres, arriver donc à son rendez-vous, ça peut être un véritable parcours du combattant, dès lors qu'il y en a un certain nombre qui sont d'accès difficile, par les transports en commun, par la route. Et enfin, la possibilité de venir en taxi conventionné n'est pas toujours une information dont disposent les personnes. D'où de nouveau la nécessité de s'organiser, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ça, ça me fait rebondir sur la troisième partie dont je voulais vous parler. Donc là, vous avez des modes d'organisation qui sont finalement assez défavorables aux personnes les plus démunies. Alors, en termes d'inégalités sociales, y a ça. Il y a aussi le fait que souvent les entrevues médicales sont jugées trop rapides et surtout peu compréhensibles. Donc ça aussi, c'est une permanence en France, hein. Moi, j'ai observé en médecine générale, mais ça a été observé dans plein d'endroits. Hein, les médecins ne sont pas toujours eux-mêmes conscients qu'ils ne sont pas compréhensibles. Donc l'idéal pour les patients, c'est toujours d'être accompagné et suivi parallèlement par des traducteurs, hein. C'est au point où certaines personnes proches d'enquêter enregistrent certaines consultations médicales. Et d'un autre côté, c'est un atout du coup d'avoir du réseau médical ou paramédical soi-même. Donc le travail de traduction. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les patients atteints d'un premier cancer, donc qui n'avaient pas ni expérience ni réseau de proches paramédicaux, ils ont souligné également un manque d'explication, ça on l'a dit, de leur parcours de soins. Alors ça concerne les intervenants successifs, les possibilités de transport, mais aussi d'aide à domicile, de soutien social et plein de services qui sont proposés par les centres. Et paradoxalement, celui où il y a le plus d'informations qui s'appelle le RI, qui est vraiment un centre d'information très très ouvert. Alors ça veut dire que, je reviens là-dessus, mais en l'occurrence dans les centres ou pas, dans le cancer, hein, encore une fois, l'information est donnée souvent sur chaque cas au fur et à mesure des traitements. Donc ça a été déjà souligné par Ménoret. Et donc c'est souvent trop tardivement pour que les personnes puissent s'organiser. Donc il y a ça, mais en plus uniquement si les personnes ont l'information, uniquement si elles posent les questions aux médecins. Donc globalement, les personnes issues de milieux populaires ou plus défavorisés sont désavantagées, je vais y revenir. Et on a aussi vu un autre problème qui a déjà été souligné notamment par Sylvie Fuzang, mais dans plein d'études, hein. La diffusion de l'information médicale, elle est moindre quand les patients sont perçus par les médecins comme issus de milieux défavorisés ou quand ils sont jugés fragilisés psychologiquement, psychiquement, tout ce que vous voulez, hein. Et on a vu aussi dans cette étude un troisième présupposé un peu du même ordre. D'un point de vue médical et institutionnel, la bonne information du patient, elle est plutôt synonyme d'une multiplication de supports écrits qui sont donnés plutôt au début de la prise en charge. Hein, on va donner au patient, paf, un certain nombre d'informations écrites, hein, et qui ne sont pas forcément digestes pour tout le monde, mais surtout qui ne sont pas forcément répétées, relayées oralement, et c'est d'ailleurs une des demandes des enquêtés. En plus, vous avez une communication décente qui passe par des campagnes d'affichage. Vous avez énormément d'informations via des affiches. Alors, quand on interroge les personnes, ils disent mais c'est bien, comme ça, tout est mis à disposition du public. Bon, mais ça, malgré tout, ça atteste aussi de mécanismes qui sont connus. Ben, premièrement, toutes les personnes n'ont pas les mêmes capacités à oser, donc on l'a dit, questionner les médecins, mais aussi à chercher à trouver eux-mêmes l'information. Je vous ai mis en référence saine là-dessus. Et deuxièmement, simplement, suite à des états de fatigue ou à des états de santé dégradés, vous avez notamment des primo-arrivants qui ne voient pas, qui ne lisent pas les messages qui leur sont destinés. Hein. Ce ne sont pas des biens portants. Et dans ce sens, ils nous ont dit aussi, je cite, simplement ne plus avoir le courage aussi, simplement d'utiliser ces supports, d'utiliser les services qui sont proposés par les centres. Et en plus, ils partagent tous un besoin commun qu'on a aussi assez vite perçu. Ben, ils ont tous envie de partir le plus vite possible de ces centres. Voilà, d'où des doléances d'ailleurs pour des services de proximité et à domicile. Alors, quant aux patients les plus démunis socialement, ben, selon les études, c'est eux qui éprouvent le plus de difficultés à venir à l'hôpital, à être hébergés à proximité, à communiquer avec des intervenants et ou à comprendre des instructions, à être joints par téléphone quand ils ont pas forcément les domiciles fixes. Et donc, ce sont ceux qui ratent le plus de rendez-vous, avec des difficultés aussi de récupération à domicile. Hein. Et je vous ai mis une autre étude, là, notamment celle de Kayat. Je les cite parce qu'en fait, on n'a pas pu exploiter les expériences de ces patients, parce qu'en fait, il est ressorti que ces centres n'accueillaient que peu de patients bénéficiant de la CMU et en situation de grande pauvreté, qui sont peu fréquentés également par des patients atteints des cancers les plus lourds ou ayant les plus mauvais pronostics. Et pour cause, en fait, ces patients-là sont plutôt traités en hôpitaux publics où le recrutement se fait à proximité et souvent en lien, je cite des épidémiologues, hein, avec des poches de milieux populaires et précaires dont on sait notamment qu'elles diminuent les taux de survie au cancer. Donc là, vous avez des établissements publics qui, comme dans d'autres études, au-delà du cancer, cumulent les prises en charge là, de cancers incurables et les plus lourds, et également des personnes âgées. Hein. Et à l'inverse, les centres, en fait, semblent surtout privilégier le traitement alors du cancer du sein. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de féminins cancer du sein, finalement, et gynécologique, parce que synonyme de possibilité de développement de recherche innovante. Hein, les centres font énormément d'essais médicamenteux et ils sont en passe de s'affirmer comme les numéro 1 de la recherche sur le cancer en France. Donc, ils se positionnent aussi par rapport aux autres structures. Donc là, il y a des profils sociaux et épidémiologiques différents selon les types d'établissements qu'il faudrait encore étudier. Malgré une dernière constante que je voulais souligner, alors partout, et c'est tant mieux, on commence de plus en plus à demander les avis des usagers, notamment sur leur prise en charge. Mais souvent, il y a encore un détail près qui n'est pas fait. Hein. Souvent, les commanditaires des études, comme les médecins interviewés, d'accord, semblent toujours oublier un plan essentiel. C'est que finalement, les usagers, les patients, ils sont particulièrement bien placés pour proposer des pistes d'amélioration de leur prise en charge. Je vous en parle parce que cet oubli, moi, ça fait des années que je travaille sur la santé, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent. Quand il s'agit de construire un nouvel hôpital, d'améliorer de nouveaux dispositifs, hein, il y a encore cette tendance à oublier que les personnes concernées, y compris les professionnels, hein, peuvent poser des diagnostics, peuvent avoir des propositions, pour peu qu'on prenne le temps de les écouter. Hein. Je n'ai pas le temps de vous présenter, nous, ce qu'on a recueilli au niveau des pistes d'amélioration de la part des patients. En tout cas, elles sont loin d'être révolutionnaires. Par exemple, aucun enquêté n'a revendiqué le statut d'expert, donc d'être associé à l'élaboration des protocoles de recherche clinique. Et en fait, c'est des propositions plutôt assez concrètes qui pourraient être des choses à creuser sur les conditions, là, pour le coup, d'un véritable parcours personnalisé et coordonné. Peut-être aussi davantage sociaux de difficultés sociales. Je vous en donne juste quelques exemples. Il y a eu faciliter la passation des examens et les prises de rendez-vous pour les patients fatigués, en situation de premier cancer, a fortiori métastasés et résidant loin des centres. Les informer des possibilités de transport et d'aide sociale. Donc, répéter oralement les directives et programmes de soins tout au long de la prise en charge, avoir un meilleur fléchage des acteurs mobilisables et des soignants à contacter en cas de difficulté à domicile, parce qu'il y a des gens aussi qui prennent sur eux énormément à domicile, qui n'osent pas après contacter. Au début des cures de chimiothérapie, les intervenants pourraient venir aussi se présenter, hein, parce que ça inciterait des personnes à oser appeler en cas de besoin. On mettrait un visage sur des listes non anonymes. Développer les informations sur les possibilités de soins complémentaires, esthétiques, nutritionnelles. Donc en fait, vous voyez, hein, sur tout ce qu'il y a aussi au-delà du traitement lui-même, en amont, un aval de la prise en charge. Alors vous avez plein d'autres pistes d'amélioration. Organiser le passage de psychologues dans les salles d'attente, justement, là où c'est assez pénible, afin d'aider les personnes qui craquent. Organiser systématiquement des pratiques de soutien à destination des conjoints. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, on pourra y revenir. Mettre simplement davantage de téléphones à disposition pour joindre les chauffeurs de taxi. Instaurer des dons de perruques qui valent très très cher pour les femmes les plus démunies. Et tout bonnement, il y en a une personne qui nous a dit, mais tout bonnement, ils n'ont même pas pensé à mettre une boîte à idées dans la salle d'attente. Ce qui veut dire, voilà, c'est assez symbolique de ça. Alors, je passe à la dernière partie. Je vais essayer de résumer. Je vais m'accrocher à mes notes pour ne pas déborder, parce que vous voyez, c'est une enquête qui est très riche. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit des nombreuses témoignages de difficultés rencontrées lors des prises en charge, dans cette étude comme dans d'autres, hein, il y a eu quand même une forte modération des critiques de la part des patients, avec une opinion globalement qui est restée favorable sur la médecine. Et ça rejoint des constats qui ont été faits, des études notamment de Castel. Hein. La place dominante dans la société de la médecine n'est pas remise en cause. Les usagers et plus encore les soignés partagent finalement aussi avec les professionnels de santé, en France en tout cas, des croyances quand même aux progrès médicaux, des espoirs, même s'ils sont plus réalistes. Hein. Ça c'est le premier point. Donc il y a peu finalement de remise en cause ou de désenchantement par rapport à cette notion de progrès. En conséquence, tous les enquêtés ici, même les plus critiques, en fait, ils se sont soumis bon gré mal gré aux traitements médicaux. Ils se sont gardés aussi de s'en prendre directement au personnel, a fortiori aux médecins spécialistes. Hein, ça, c'est un constat qui a été aussi fait par Saint-Marc, je vous l'ai mis en biblio, donc dans les hôpitaux publics. Non seulement parce que c'est quelque chose qui est intériorisé, qui va de soi, et parce que, encore une fois, c'est des personnes qui ont leur vie entre leurs mains, mais aussi parce que, alors là, je passe à un autre volet un peu, c'est tout ce qui est sociologie de l'expérience. Hein. Les enquêtés, même atteints d'un premier cancer, savaient déjà ou ont appris sur le tas à faire preuve de patience. Et mieux ou pire, ça c'est à voir, suite à des expériences éprouvées, tous ont fait le constat qu'il ne fallait pas trop en demander non plus aux médecins, qui ne sont pas forcément bien formés, on a eu à côté de la plaque, on a eu simplement fatigué, stressé, avec un constat commun, bah, il faut du coup se débrouiller. Il faut se débrouiller. Et enfin, du point de vue des patients, bah, ils ont éprouvé que s'énerver ou s'angoisser, ça ne sert à rien, sauf à épuiser, je vous rappelle, dans le cancer, les forces qui sont déjà souvent manquantes. Et c'est précieux. Et quand bien même, ça s'est revenu beaucoup, hein, il y a toujours plus à plaindre que soi. Et ça, c'est un discours leitmotiv que j'ai entendu beaucoup lors d'hospitalisations dans divers services, y compris d'ailleurs chez les paramédicaux. Bon, ça renvoie, je vais aller très vite, hein, mais au rapport aux émotions, on s'est aperçu que finalement, au-delà de la diversité des socialisations familiales, des parcours singuliers des soignés, ben, les critiques, comme les émotions, sont plutôt rentrées, hein, suite à une même intériorisation, moi j'appelle ça du prendre sur soi. Hein. C'est d'ailleurs ce qui nous a marqué, nous, dans les premières observations en hôpital de jour, dans les salles d'attente, parce qu'il y a quelque chose qui est frappant, c'est le silence. C'est le silence, malgré tout ce qu'on vient de dire, vous avez très peu de patients qui craquent finalement, et si c'est le cas, l'émotion retombe très vite, je pourrais redévelopper sur la façon dont ça se passe, mais c'est l'idée que les enquêtés sont aussi amenés finalement à travailler sur leur propre émotion. Donc ça fait un triple travail, je trouve aussi, hein, pratiquement, du patient. Et les émotions, Dieu sait si elles sont importantes dans le cancer. Je ne vous les ai pas mis en biblio, mais vous avez plein de travaux là-dessus, dont ceux de Marche et Bio, hein. Donc ce travail sur soi, il est aussi intériorisé. À quoi s'ajoute, c'est pareil, je pourrais développer davantage, une forme d'injonction chez les femmes en particulier, où même malade, il convient particulièrement de cacher les signes du cancer. Je le développe notamment dans un article qui va paraître. Ça explique aussi l'importance des coiffeuses, des esthéticiennes, de réseaux féminins. Donc reste pour moi l'importance des expériences qui sont vécues individuellement et qui sont acquises donc progressivement ou antérieurement à la maladie, parce qu'on s'est aperçu finalement que les enquêtés qui étaient les plus critiques, c'était à la fois des personnes qui étaient en poste de responsabilité, mais aussi qui avaient simplement déjà été confrontées à la maladie grave, hein. C'était les plus critiques par rapport à l'organisation des soins et les plus actifs dans les soins. Mais l'accumulation d'expériences de prise en charge sur le tas, au cours donc d'interactions avec les professionnels, ça a amené aussi d'autres patients, y compris simples employés ou plus néophytes dans la maladie, à apprendre à s'adapter aux logiques institutionnelles, aux attentes des soignants, à se comporter comme attendu, même s'ils expérimentent parfois, hein, certaines figures du mauvais malade en France, hein, ne pas poser trop de questions, ne pas parler de recours aux médecines alternatives ou encore se contenter de réponses assez vagues. Mais là, c'est pareil, il y a des stratégies qui sont développées, y compris par ces personnes, pour poser X fois la question, mais de façon différente, pour finalement avoir une réponse, en particulier aussi aller chercher des réponses hors du milieu médical. Je vais terminer là-dessus. Beaucoup de stratégies d'échange entre patients, notamment pendant ces temps d'attente, via aussi par Internet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retombe toujours sur la même chose. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le pouvoir médical comme le craignent un certain nombre de praticiens, hein, c'est même assez répandu. En fait, c'est vraiment une stratégie avec plein d'usages qui vise finalement à pallier toutes les difficultés dont je vous ai parlé. Pareil, je pourrais développer. Mais j'ai commencé à regarder aussi les blogs, il faudrait continuer, mais ils sont justement ouverts à tout le monde. Les conseils des patients les plus expérimentés sur les sites qui sont les plus spécialisés et les plus critiques, elles attestent encore de difficultés à dépasser des habitudes ancrées. On pousse par exemple les personnes à oser parler aux médecins, aux chirurgiens, à prendre l'avis de plusieurs médecins, parce que les médecins peuvent se tromper, être en désaccord, à se plaindre auprès des soignants en cas de mauvaise prise en charge. Il y a un blog où c'est ouvrir sa gueule. Mais en interpellant les commissions, c'est pas du tout dans le sens d'opposition au pouvoir médical, hein, c'est vraiment en cas de souci majeur de prise en charge, oser aller jusqu'à interpeller les commissions des établissements pour avoir l'assurance d'être entendu, hein. Alors c'est une amorce, c'est pareil, je pourrais développer. Il faut savoir que c'est encore des recours qui sont interdits. N'allez pas sur Internet par des médecins. Alors c'est un peu anachronique dans le sens où on est dans une société qui fonctionne beaucoup avec cet outil, et les médecins eux-mêmes et les centres de santé eux-mêmes se valorisent ou échangent avec cet outil. Et donc je pense que moi, ça, c'est cette interdiction-là, ça traduirait surtout une tendance finalement à toujours considérer les soignés de façon indifférenciée et toujours de difficultés à les considérer comme des individus responsable avec, alors on pourra développer aussi, hein, le patient est toujours plutôt pensé en incapacité de recevoir des informations qui sont toujours synonymes de démoralisation et de manipulation. Et ça, c'est la dernière constante sur laquelle je voulais venir, peut-être encore une minute, juste pour, par rapport à cette aussi, ces critiques qui sont peu développées. En plus, elles ont diminué lors du deuxième entretien, hein, et les enquêtés ont encore plus modéré leurs critiques, tant à l'égard du corps médical que des centres, car on s'est aperçu que la fin du traitement de chimiothérapie s'est pensée simplement comme le début d'une période de reconstruction. Donc même si les marques du cancer demeurent, là, le plus important, c'est d'oublier, hein, l'épreuve de la chimiothérapie et plus globalement la maladie, de quitter en fait son identité de malade. Donc je vous ai mis Jacques aussi, une référence dans la biblio, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout envie de côtoyer et parler le moins possible de la maladie, de tout ce qui se réfère au cancer. Il y a la notion de retrouver aussi les petits plaisirs, même en cas de pronostic grave, hein. Alors, parce que nous, dans le temps, on a perdu un certain nombre de personnes qui sont décédées, mais aussi qui n'ont pas voulu forcément nous revoir une deuxième fois parce qu'ils avaient repris leur travail, parce qu'ils n'avaient plus envie d'en parler. Donc, il y a aussi, il y a prendre sur soi et penser à soi à la fin, qui fait aussi que, là, on peut tirer vers la notion de rite de passage, qui est bien connue en anthropologie, hein, qui sont vraiment, qu'on retrouve dans la naissance, la maladie et la mort, et qui sont des périodes de séparation, là, le diagnostic, des périodes de marche, particulièrement la chimiothérapie, et puis les fins des traitements, quelle que soit l'issue pathologique, où là, on change de statut, parfois on change de regard, de priorité dans la vie, etc. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je pense que c'est... Je sais pas combien de temps j'ai...
Tu prends encore 5 minutes
Ben, peut-être, oui, en 3 minutes, pour qu'on ait le temps d'échanger. Moi, je vous ai mis une conclusion par écrit, et puis là, je vous donne d'autres pistes, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout achevé encore. Moi, ce qui m'a marqué, mais je l'ai dit, hein, c'est vraiment cette notion d'apprentissage sur le tas. Chez des patients qui n'ont jamais été confrontés à la maladie grave, cette série d'expérimentations de problèmes et d'opacité là, de l'organisation de soins et de normes, avec donc des regards plus critiques de celles et ceux qui avaient déjà connu ce type de confrontation, donc toute la sociologie de l'expérience, mais des critiques qui sont quand même limitées pour les raisons qu'on a dites. Alors peut-être une forme de tradition positiviste qui est quand même assez ancrée en France, donc avec au final un triple travail à la Strauss, qui est plutôt permanent, qui explique des usages plutôt palliatifs d'Internet, parce que outre le fait d'être patient, donc de prendre sur eux, alors ça c'est la sociologie des émotions, tout ça, qu'il faudrait aller plus loin, implicitement on pense encore, bon, le patient comme patient, hein, qui n'a pas forcément une vie à côté, etc., un travail, et supposé en capacité de traduire le discours médical. Questionner, lire, être dans l'écrit, trouver lui-même l'information. Et le malade et ses proches, ça c'est plus intériorisé, sont toujours amenés donc à coordonner les soins, ce qui n'est pas non plus évident à donner à tout le monde. Et ce travail-là, il est aussi intériorisé, jugé normal. Et ça renvoie à bon, tout un système aussi, hein, des prises en charge qui sont encore segmentées, hiérarchisées, hein, y compris entre le secteur médico-social. Bon, j'ai essayé de faire une petite synthèse. On pourrait aller plus loin dans les permanences. Si on va plus loin pour ouvrir les débats, en fait, on est toujours quand même dans une forme d'accaparement des pratiques les plus prestigieuses, techniques, innovantes, souvent éloignées du patient, qui restent dominants en médecine, hein, selon des segments de la médecine. C'est pour ça que je vous ai mis Pinel dans la biblio. Et inversement, tout ce qui est savoir entre guillemets profane, tout ce qui est compétences relationnelles, celles des soignés et de leurs proches, d'usagers, celles de professionnels de santé aussi, sont satellisées, hein, parce que finalement, elles retrouvent à s'exprimer plutôt dans les marges, dans les interstices du système de santé. Et ça renvoie à des études, des constats qui sont faits aussi par Beignet, qui est professeur de sociologie. Il lui fait des études sur les secteurs médicaux, sociaux, handicap, petite enfance. On a des constats similaires. François-Xavier Jveyer aussi fait des constats assez proches. Et en fait, c'est tout ce qui est ensemble de tâches qui ne permettent pas des actions médicales efficaces, salvatrices, rapides et prometteuses, qui ont tendance à être déléguées, voire reléguées. Alors, on l'a vu aussi entre médecins, hein, des médecins seniors aux jeunes internes, notamment tout ce qui est passage justement du curatif au palliatif, des médecins hospitaliers à des médecins de ville, bon, ça peut marcher aussi des fois dans l'autre sens, mais souvent de ces derniers aux paramédicaux, dont le point de vue n'est pas forcément non plus beaucoup pris en compte. Là, je pense notamment aux infirmières, hein. Ça rejoint aussi vos travaux, les travaux d'Yvan Saint-Selieu au sein de l'institution hospitalière. Et puis, tout ce qui est soins les plus quotidiens, les plus complexes, les personnes incurables, handicapées, atteintes de démence, situation de précarité, ceux qui sont le plus appréhendés aussi, dans le sens qui font peur dans la société, ils sont pris en charge par les acteurs les plus invisibles. Alors, c'est les fameux petits personnels, si on descend encore d'un cran, les aidants à domicile. Souvent, c'est les acteurs les moins diplômés, hein. Vous avez aussi une hiérarchisation et des divisions du travail fonction du nombre des diplômes. C'est quand même très fort en France dans les soins, en tout cas. Et ça, c'est des tendances qui sont étudiées au Québec, mais qui sont valables aussi en France. Finalement, tout ça revient de plus en plus aux familles, aux soignés, aux aidants familiaux, ou des femmes peu professionnalisées, en fait, c'est souvent des femmes. Et là, on retombe sur des constantes anthropologiques, sur le fait que c'est souvent le soin, c'est souvent les femmes, et on le retrouve là. En tout cas, voilà.
Bravo, hein. Non, oui. Chapeau.